Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer. Ça me fait un petit peu bizarre de reprendre officiellement le podcast. C'est vrai que les interviews ont été en pause pendant plus de 4 mois depuis août et nous sommes en janvier 2024. Je vous souhaite donc une bonne année, même si on est presque, on est à la fin du mois, quasi, de ce mois interminable de janvier. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Si vous avez suivi les Podmas, donc le concept bonus 2023 qui a signé mon retour sur le podcast tout simplement. J'ai déjà fait part de mon bilan par rapport à mon année 2023 en écriture et compagnie, également mes résolutions pour 2024, mais je voulais, avant de commencer l'interview, la première interview de l'année et l'interview du mois, vous faire un petit retour sur ces podcasts. Ça a été une super expérience. De base, je voulais faire un épisode de bonus et bilan, mais c'est très très bien aussi de le faire dans cette introduction. Ça a été assez fou, c'était très intense, donc c'est pas quelque chose que je ferai tous les mois, ça c'est sûr et certain, mais je pense que pour renouer le contact avec vous, c'était plus que positif. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, surtout que c'était vraiment du jour pour le lendemain. J'ai pas du tout anticipé les épisodes, donc si c'est à refaire pour les Podmas ou à un autre moment de l'année, je pense qu'il faudrait que je passe une organisation un petit peu différente. Mais en tout cas, j'ai pu le voir au nombre de vues, enfin au nombre d'écoutes. On a doublé, voire triplé par rapport au mois, on va dire aux écoutes moyennes mensuelles. Après, c'est normal parce qu'il y avait un épisode par jour. Donc, même si au total, il y avait moins de personnes qui écoutaient chacun des épisodes, mis bout à bout sur presque 25 épisodes, ça fait beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour comparer, je crois qu'on a même... Non, attendez. On a doublé, voire triplé par rapport au meilleur mois de l'année, mais on a même quintuplé en fonction des périodes, ce que je trouve ouf. Bref, tout ça pour dire, le plus important, c'est pas forcément les chiffres, je le faisais pas ça pour exploser le nombre d'écoutes au compteur, mais c'était gratifiant. De voir que vous me suiviez, qu'il y a à peu près le même nombre d'écoutes sur tous les épisodes, même s'il y en a qui se différencient. Donc j'ai pu voir également quels épisodes, quels sujets, quels titres vous faisaient envie ou non, même d'un point de vue de l'interaction. Sur les réseaux sociaux, certes, j'ai reçu quelques messages super mignons, mais aussi dans les commentaires, donc avec les fonctions Spotify. Là n'est pas la question, parce que je m'emballe déjà. Aujourd'hui, j'accueille Marie C. Teresa, qui est une autrice de romance et de comédie romantique. Et aujourd'hui, avec Marie, on remonte le temps. Donc, vous prenez votre petite machine de retour vers le futur, vous attachez vos ceintures, et on part vers les années 2000. Pourquoi les années 2000? Parce que les années, fin années 90, début années 2000, c'est certes les années et la génération Skyblog, mais c'est surtout la génération et l'époque où on avait de vrais classiques de rom-com. Toutes ces séries où on avait des trentenaires, des potes, des groupes d'amis, filles super iconiques, que ce soit par leur métier, par le pays où elles habitaient, leur mode, leur sens de la mode, etc., etc. Bref, ce qui nous est rêvé d'avoir 20 ans, 30 ans à cette époque, entre les BlackBerry et les téléphones à clapet. On va évidemment parler de toutes ces expériences et de toutes ces influences, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on va également parler de la pression d'écrire quelque chose de profond quand on écrit du contemporain, ou cette pression à se justifier. On parle également toujours, pour continuer dans la pop culture, des comptes sources. Je sais pas si vous vous souvenez des blogs, des comptes de fans, on parle un petit peu de ça, des skyblogs bien évidemment. Le fait de s'inspirer un petit peu de sa vie, donc d'écrire un témoignage, le fait d'être autodidacte et d'apprendre énormément sur internet. Bref, comme d'habitude, on va passer par plein de sujets, donc je vous laisse avec l'interview du jour et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Marie, comment tu vas ?
Bonjour Maëva, très bien et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la reprise officielle du podcast.
Ben, je suis ravie d'être avec vous pour cette reprise, c'est un honneur.
Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Et à mon avis, elles sont nombreuses. moi, aujourd'hui, je suis ici en tant que qualité d'autrice de romans. Donc, mon nom, c'est Marie C. Teresa et j'écris de la romance et plus spécifiquement de la comédie romantique.
Très bien, voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler alors de ton parcours, un petit peu de lectrice, comment ça a commencé pour toi, et si tu veux également ce qui t'a mené un peu à l'écriture?
Ouais. Alors, mon parcours de lectrice, il a commencé très tôt. Parce que j'ai une de mes tantes qui est institutrice, enfin qui était une ancienne institutrice, qui avait les vacances scolaires l'été du coup, et qui partait avec nous en vacances. Et donc elle m'a appris à lire, j'avais 4 ans je crois, quelque chose comme ça. Et elle m'a ouvert les portes de la lecture et aussi de l'écriture. Elle a joué vraiment un rôle hyper important dans mon parcours d'écriture. Donc la lecture a commencé très tôt. Après, ma mère, elle m'a toujours lu beaucoup d'histoires. Le soir, c'était un rituel qui était important chez nous. Mais de tout, hein. Enfin, vraiment, il y avait de tout. C'est des livres ensuite qui m'ont vraiment marqué, mais un peu plus tard, j'avais 7 ou 8 ans. Mm-hmm. Le premier livre qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt, qui m'a bouleversée, je crois, comme un bon nombre de personnes qui l'avaient lu. Mais enfin, j'avais 8 ans, j'étais toute petite, c'était un cadeau de mon parrain, je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Mais c'est un livre qui m'a fait tellement pleurer. Donc c'est officiellement le livre qui m'a marqué le plus, le livre qui m'a fait pleurer le plus, en tout cas à cet âge-là. Et je me rappelle, je l'ai fini un dimanche soir et je pouvais pas me coucher dans cet état. Et j'avais repris du coup, ma mère a m'acheté souvent quand on allait, je me rappelle, à Super U petite, tu sais, dans les, il y avait des livres pour enfants là, des petits romans pour enfants. Et j'avais les collections. Alors impossible, j'ai cherché le nom ce matin pour te le donner, impossible de retrouver. C'était Angel et Démon, un truc comme ça. C'était l'histoire d'un... Ça ne te parle pas ? C'était des séries, il y en avait je ne sais pas combien. Et c'était l'histoire d'un ange qui était descendu sur Terre et qui vivait des aventures sur Terre. Enfin, c'était trop cool. D'accord. C'était surtout cool parce qu'il y avait des paillettes sur les couvertures du livre.
Tu m'étonnes.
Et du coup, je me rappelle que le soir, je lisais ça pour oublier un peu mes émotions un peu tristes. Mais du coup, le livre qui m'a marqué le plus, c'est ça, qui m'a fait vraiment entrer dans la lecture. Et ensuite, ma mère m'emmenait beaucoup dans les salons du livre, les choses comme ça. Mmh. Et je me rappelle d'être tombée sur le livre de Meg Cabot, Princesse malgré elle. Ouais, t'en as parlé d'ailleurs dans les Podmas, il me semble. Oui, hein. Oui. Et ça, j'ai commencé vraiment à tomber dans la lecture à ce moment-là. Vraiment avec Meg Cabot dans un premier temps. Comment ça s'appelait ? Le journal intime de Georgia Nicholson, tu connais ?
Non,
ça
du tout.
Ça, c'était genre un Bridget Jones, mais pour les ados enfants, tu vois. Enfin, c'était trop drôle, c'était génial. Donc, je suis tombée dans la lecture un peu comme ça. Et l'écriture est venue vraiment, je dirais, vers 10-12 ans. Okay. Même si j'avais déjà fait des...
C'est jeune quand même, toujours.
Ouais, c'est jeune quand même. Mais enfin, c'est... De toute façon, quand on écrit, souvent, on dit « j'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit oui. ». C'est un peu vrai. Ma mère, elle a retrouvé des espèces de pseudo-romans que j'écrivais, que j'illustrais quand j'avais 6-7 ans. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. Mais vraiment, écrire, ouais, j'avais 10-12 ans, je pense.
Ok.
Ouais. Des journaux intimes, des histoires, plein de choses.
Oui,
ça.
Donc c'était pas forcément de la fiction au début.
Ouais. Non, pas forcément. Il y avait cette envie d'écrire, ouais. Et la lecture, ensuite, ça s'est poursuivi au collège. On avait un jury littéraire. Oui. Du coup, je faisais partie du jury littéraire. Et avec une de mes meilleures amies de l'époque, on se faisait des petits concours, un peu en mode booksta, tu vois, des objectifs de lecture. Et on se disait, ce mois-ci, on en fait 10, ce mois-ci, on en fait 12. Et c'était notre petit challenge personnel.
C'est trop cool.
Donc, ouais,
la lecture a toujours été impliquée quand même assez tôt, quoi.
Ouais.
C'est trop drôle parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Oscar et la Dame Rose, on parle de Macabo, effectivement, j'en parlais dans les podmas. Et je me rendais compte en préparant l'interview d'aujourd'hui qu'on est la même personne. Il y a beaucoup de déjà vu.
Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Mais on est quasi de la même année, je crois. Enfin, t'es un peu plus jeune que moi, il me semble.
Peut-être. Moi, si tu veux, on coupe. Ok. Tu sais, il y en a qui ont un peu honte, donc on peut couper si tu veux. Moi, je vais avoir 28 cette année. Donc, ouais, c'est les années 90, hein, de toute façon.
C'est ça.
Mais voilà. Ça s'entrecoupe de fou. Mais du coup, je suis super étonnée parce que Oscar et la Dame Rose, moi, je l'ai lu bien plus tard. C'était pour l'école. Je me rappelle plus si c'était fin primaire ou début collège, mais voilà, c'était quand même à peu près l'âge charnier, 10-12 ans, quoi, un truc du genre. Et pareil, j'avais pleuré, mais c'était pour l'école, donc fallait faire des présentations et tout, et j'étais vachement reconnaissante de lire ce roman, quoi. Enfin, j'avais trouvé ça fou. J'avais déjà, il me semble que j'avais déjà pleuré par rapport à Pierre Bottero et tout, mais c'était la première fois que je lisais un livre sur ces thèmes-là, parce qu'avant, c'était beaucoup d'imaginaire et un peu, justement, le fait de ne pas être touché par des sujets de société, des sujets importants et malheureusement tristes et d'actualité, quoi. Et c'est vrai qu'on avait regardé après le film, donc je pense que c'était
pas vu, moi.
Plus tard. Il était pas mal, mais c'est vrai qu'une fois que tu as lu le livre, forcément, tu... Enfin, c'est le début des comparaisons où tu dis « Ah, c'était mieux le livre » ou « Ça, c'était pas... » Mais voilà.
Ouais. Non, c'était c'est un livre qui m'a vraiment marqué, c'est sûr.
Donc, par rapport à l'écriture, donc t'as commencé tôt. Et quand est-ce que t'as commencé à te dire « Bon, je vais écrire un roman », est-ce que c'est beaucoup plus récent ? Ou justement, ça s'est fait un peu de fil en aiguille, comme tu commençais avec des petites histoires par-ci, par-là, le jury littéraire ?
J'ai toujours eu des histoires dans ma tête, ça c'est sûr. Mais vraiment de passer à l'étape « Bon, je matérialise, je rends la chose tangible », ça c'est venu plus tard. Le premier vrai manuscrit où je me suis vraiment engagée dans une démarche de roman, c'était en 2021. Tu vois, c'est pas si vieux, ça fait 3 ans.
Oui, c'est ça.
C'est assez récent, parce que j'avais le temps qu'il permettait. J'avais enfin fini mes études et du coup, j'avais un peu plus de temps pour le faire. Et puis l'envie aussi, je crois. Enfin, il y avait un truc qui m'appelait. J'avais vraiment envie d'écrire des histoires. Être romancière, c'est un rêve d'enfant, tu vois, comme... Tu rêves d'être astronaute ou, je sais pas, maîtresse d'école, mais c'est un rêve petit, ça, c'est sûr que c'était quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Et donc, j'ai vraiment pris le temps en 2021, de me lancer dans ce projet-là, à fond. Je faisais que ça.
Est-ce que c'était le passage un peu Covid ? Parce que je pense que pour beaucoup, ça a été un peu le pied à l'étrier.
C'était le passage Covid, le passage changement de vie. Je changeais de région, je montais une entreprise. J'étais au début d'une nouvelle entreprise et je n'avais pas encore suffisamment de travail, donc j'avais aussi du temps. Et il y a eu le Covid forcément aussi qui est passé par là. Et du coup, j'avais plus de temps pour imaginer des choses, quoi.
Tout à fait, ouais. Et avant de venir à ton côté, voilà, un peu plus autrice dans le détail, mais j'aurais voulu savoir quels sont les univers qui t'inspirent, parce qu'actuellement tu écris de la comédie romantique, de la romance, mais au niveau des séries, des films ou justement d'autres sagas, parce que là on a parlé de Macabo, on a parlé d'Oscar et la Dame Rose, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, est-ce que t'as des univers qui t'inspirent ?
Je pars souvent dans tous les sens, tu verras, il y a beaucoup de... il y a de tout. Les univers, il y a beaucoup de... Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des enfants des années 90. Et j'ai été très marquée par cette période, notamment par la télévision des années 90, les séries des années 90, beaucoup. J'ai grandi avec Seth à la maison, tu vois. Gilmore Girls, c'était la série de toute ma vie. Les frères Scott, j'ai beaucoup été influencée par tout ça. Après, est-ce que ça se ressent dans mon écriture ? Je ne sais pas, mais c'est des références, en tout cas, que je place partout. Enfin, je fais des clins d'œil. J'adore les histoires où il y a des clins d'œil auxquels je peux, moi, me rattacher. Donc, c'est sûr que, du coup, mes livres, tout le monde ne peut pas forcément s'y rattacher, mais les gens de notre génération, probablement, peuvent facilement raccrocher. J'aime beaucoup les comédies romantiques, forcément. Les grands classiques, type Love Actually, The Holiday... Coup de foudre à Notting Hill, enfin vraiment je n'ai aucune originalité en la matière, vraiment c'est les grands classiques, Pretty Woman et compagnie, Dirty Dancing, forcément toutes ces choses là. Et dans les séries un peu plus récentes qui m'ont aussi donné envie d'écrire ça, par contre il y a des séries type Valeria que j'ai adoré sur Netflix. D'ailleurs c'est l'histoire d'une fille qui écrit,
Oui, tout à fait.
J'adore. En série française, j'adore Plan cœur. En fait, j'aime bien les choses légères. J'aime bien les choses douces, légères et auxquelles tu peux t'identifier facilement.
Oui, avec les histoires de vie, les groupes d'amis où tu as un peu des histoires qui s'entrelacent. Quoi.
J'aime bien quand il y a du lien qui se fait entre les différents groupes, qu'on suit plusieurs personnages. Les groupes d'amis, les histoires d'amour, les trucs. Les basiques.
Puis surtout qu'en tant qu'écrivain, ça aide parce que tu peux avoir un tome sur un personnage, un autre sur. C'est comme ça que tu te retrouves avec un million de projets spin-off. Mais c'est possible. Enfin, les univers, de toute façon, ils sont infinis. Donc dès que tu commences avec un personnage et que tu aimes bien un personnage secondaire, tu sais que tu peux lui écrire sa propre histoire, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur les rom-com, les classiques, parce que, on va pas se mentir, tout ce que tu as cité, même si nous, dans notre tête, on n'a pas l'impression, ils ont plus de 20 ans. Je te jure, c'est horrible. Mais quand ils pensent, il n'y a pas, en tout cas d'un point de vue rom-com, parce qu'entre-temps, il y a eu les années 2010, il y a eu le côté fantasy, dystopie, etc. Mais rom-com, aujourd'hui, il n'y a plus de classiques. Tu vois, ça marque pas... Enfin, il y a des trucs sympas, j'en ai vu plein ces dernières années, et tu passes un bon moment, mais c'est pas les films vers lesquels tu vas revenir. Moi, ma préférée, c'est 10 bonnes raisons de te larguer, qui est sorti en 99, si je me trompe pas. Je sais que je peux me la regarder. Tu vois, enfin, c'est le truc que tu peux regarder minimum une fois par an. Et pareil, Orgueil et Préjugés de 2005, même si ça c'est historique. C'est les classiques, ils ont 20 ans presque, ou certains c'est déjà le cas, mais tu y retournes tout le temps. Alors que les films de dernièrement, t'as des comédies avec un peu de romance, mais c'est pas comme des comédies romantiques, où t'as des romances dramatiques, mais t'y retournes pas pareil, et je trouve qu'on a perdu un peu le truc. C'est dommage. Ouais.
C'est plus trop à la mode, les gens n'ont plus envie de rêver avec les comédies romantiques, ils se disent que c'est trop cliché. Et c'est pour ça qu'on aime ça, parce que c'est cliché.
Exactement. Oui.
Je sais bien que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, tu vois. Enfin,
D'un côté... c'est ça. Heureusement qu'on est lucide sur ça, parce que sinon, on serait en proie à beaucoup de désillusions. C'est ça. Mais non, c'est le but. C'est un peu ce que tu trouves. Enfin, pour moi, c'est un peu comme quand tu dis que t'aimes la fantasy. Enfin, tu sais très bien qu'il va pas avoir un dragon ou, en ce moment, c'est la mode des elfes ténébreux, là, qui t'enlèvent et t'amènent dans leur royaume. En sortant de chez moi pour sortir les poubelles, je sais que je vais pas tomber sur ça, tu vois. Je vais pas non plus tomber sur le voisin trop mignon qui a l'air d'être une star de cinéma, mais que personne calcule, tu vois.
On est au courant, on est lucide.
Voilà. Laissez-nous arrêtez de nous le dire. Merci beaucoup. Laissez-nous rêver.
Il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit, qui m'ont lu et qui m'ont dit, je pensais que tu écrivais des choses plus profondes. Mais à quel moment une comédie romantique, c'est quelque chose de profond? Enfin, le but, c'est de passer un bon moment de lecture. Enfin, et encore, je pense que j'ai quand même creusé des personnages et des aspects de l'histoire qui font que c'est pas juste en surface, tu vois. Mais à quel moment une comédie romantique, c'est censé être réel, profond et dramatique? Non, c'est une comédie romantique.
Oui, c'est un truc que tu veux lire à la plage ou dans les transports. Mais ça, j'en avais parlé dans d'autres épisodes, notamment avec Margherita Gabbiani, mais en fait, c'est l'élitisme littéraire. Où tout doit être profond, tu sais, il faut que tu souffres en lisant, il faut que ça soit de la grande littérature, il faut que tu vomisses du Victor Hugo, et juste t'as pas le droit de lire quelque chose de simple et de juste sympa, t'as pas le droit d'être heureux.
Mais oui.
en littérature.
Mais du coup, moi, je me justifie tout le temps quand je présente mon livre à des gens de mon entourage. Alors, des inconnus, c'est pas pareil, mais des gens de mon entourage, tu vois, je dis toujours, c'est pas du Zola ni du Balzac, sympa, ça fait pas ça. Mais en fait, on s'en fout que ce soit pas du Zola ou du Balzac, c'est une histoire.
Et oui, parce que t'es pas du... tu n'es pas Zola et tu n'es pas Balzac, donc personne n'a prétention à...
Non. Mais c'est comme ça.
Non, ça, c'est sûr. Mais je comprends, c'est une idée... Alors déjà, il y a, comment dire, la vision des gens extérieurs sur la romance, mais encore plus la comédie romantique. Parce que tu vois, la romance, c'est déjà mal vu, mais il y a le côté, à la limite, ça peut être profond, ça peut être dramatique, ça peut être machin. Et comédie romantique, juste comme c'est pour s'éclater, c'est vraiment codé très féminin, en mode Sex and the City, t'en parles sur tes réseaux, Bridget Jones, etc. Il y a l'étiquette en mode c'est pas de la qualité, alors que quand tu vois le nombre de ventes de ce genre de roman et les adaptations, il y a pas photo. Enfin,
on est d'accord, mais c'est pas grave, laissons-les dans leur déni, dans leur croyance. Voilà, c'est les chiffres ont parlé. Donc c'est assumé, les gars. Il y en a forcément parmi vous qui mentent. Enfin, c'est obligé.
Oui, c'est ça, exactement. On n'est pas toutes seules.
On n'est pas toutes seules. Vu les nombres, c'est pas possible. Les chiffres, c'est pas possible.
Exactement.
Ouais. Alors, super.
Et donc, en tant qu'autrice, une question que je pose tout le temps, parce que j'adore la poser, je la trouve super intéressante, c'est par rapport au nom de plume. Je voulais savoir si tu avais un nom de plume et comment tu l'avais choisi et pourquoi.
Alors, le nom de plume, ça m'a pris 6 mois, je pense. Déjà, le « je prends ou je prends pas », parce que je t'explique, je vais être tout à fait transparente avec toi. Donc, Marie, c'est mon vrai prénom. J'ai décidé de garder ça. Moi, mon vrai nom de jeune fille, c'est un nom italien. Et je suis très fière de ces origines-là. Et il se termine par « i ». Donc, ça Marie, ça finit par « i », ça rime, tu vois. Et je me disais, il y a plein d'autrices qui ont des noms qui riment, dont certaines qui font des très, très gros chiffres, en plus avec des origines italiennes. Je me disais, ça fait une chance. Tu vois de qui je veux parler. Voilà, et je me disais, en fait, j'adore mon nom et j'aurais vraiment voulu le garder. Mais... j'écris de la comédie romantique, donc il y a ce truc de est-ce que ça va pas me porter préjudice au niveau par exemple de ma carrière professionnelle, tu vois, et puis bah, je suis maman, est-ce que dans 10 ans j'aurai pas trop honte de ce que j'écris, et du coup ma fille, est-ce qu'elle aura pas doublement honte de ce que j'écris? Donc il y avait ce truc là de me dire et en même temps j'avais quand même envie d'assumer, parce que bah, aujourd'hui ça fait partie de moi. Peut-être que dans 10 ans, moins, mais à l'heure actuelle, oui. Donc, j'ai décidé de garder quand même mon prénom, qui est un peu un nom d'emprunt quand même, parce que c'est le prénom de ma grand-mère maternelle. Donc, voilà, il y a quand même ce truc un peu. Et le C et Teresa, c'est des noms que j'ai empruntés à des personnes qui ne sont plus là, mais qui veillent sur moi, je le sais. Donc, du coup, c'était une façon, en fait, de me protéger. Tu vois, je sais que ces personnes-là sont avec moi tout le temps. Donc, je me dis, je vais me protéger des avis malveillants, des commentaires malveillants, peut-être, je ne sais pas. Et pour la petite histoire, Teresa, là, c'est vraiment... Je raconte ma vie, mais petite, j'adorais les Barbies. Et je suis brune, comme tu peux le voir. Et il y avait une Barbie brune, et elle s'appelait Teresa. Et c'est du coup, j'adorais Barbie Teresa. Enfin, Teresa, du coup, elle s'appelait. Et voilà, juste pour le petit clin d'œil, je trouvais ça mignon. Et d'ailleurs, Teresa, c'est le personnage de La Théorie des Baguettes. J'ai vu l'autre
fois... Oui, ben j'allais t'en parler du coup. En fait, quand j'ai vu ton plume, je me suis dit, c'est un signe.
C'est un signe.
C'est qu'il faut que je recommence les interviews avec elle.
Non, oui, tout à fait. Ça, ouais.
Tout à fait. En fait, donc La Théorie des Baguettes, mon manuscrit actuel, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est sur une comédie romantique également, une actrice irlandaise qui essaye de percer à Londres. Et ce nom... J'en avais eu un peu l'idée. J'aime bien, en fait, la dualité des prénoms. Donc, j'aime bien quand les initiales des héros matchent. Donc, il y a eu, y a eu Louisa et Luca pour PSS Thierry 2. Et là, c'est Thomas et Teresa. Et je cherchais, voilà, un truc en T. Et après, moi, je suis très musique. Et il y a une musique qui s'appelle Thérèse de Maya Hawk. Et quand je l'ai écoutée, ça m'a validé le truc. Je me suis dit, bon, faut que je prenne
ça. Ce sera Teresa. J'aime bien.
Voilà, exactement.
Voilà.
Donc voilà, c'est le petit clin d'œil également.
Ouais. Petit clin d'œil.
Je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport au fait d'avoir des personnes qui sont avec nous et un peu vouloir leur rendre honneur aussi quand elles sont plus là. C'est comme ça que j'ai choisi le mien aussi. Donc ça permet d'avoir, t'as une partie qui est quand même toi, ton prénom. Parce que je pense que je pourrais pas me reconnaître, tu vois, si j'avais pris un truc... totalement différent de moi. T'es en salon, je suis pas sûre que je me retournerais si on m'appelle, quoi. Si j'avais choisi Anastasia, alors que bon, Eva, ça a rien à voir. Voilà, je pense que, donc déjà, le nom de famille, ça permet de différencier un petit peu des...
Mais j'ai cherché longtemps, je te dis pas, j'ai fait toutes les listes, tu sais, d'anagrammes, les noms que j'aimais bien, à chaque fois, je trouvais un truc qui me plaisait, je tapais dans Google, t'avais une prothésiste ongulaire en Angleterre qui s'appelait comme ça, enfin, c'était...
Ouais.
Je me suis dit, bon, Marie, je l'ai volé à personne, je veux dire, il n'y a pas plus commun comme prénom, et c'est le mien, donc j'ai le droit de le prendre, et puis le C, Teresa, faisait que ça, avec le C, de toute façon, il y avait une différence.
Oui, tout à fait, ouais. Non, oui, c'est la difficulté, faut toujours tester les homonymes pour pas se retrouver avec des trucs étranges après que quand les gens, ils cherchent tes romans, bon, encore une prothésiste angulaire, ça va, mais des fois, t'as des trucs un peu plus particulier, quoi, donc
c'est clair.
Ça peut porter à confusion.
Oui, pour aller jusqu'au bout de mon idée, je m'étais dit, je vais garder un nom italien, vais garder Marie, je vais mettre un nom italien, et j'avais trouvé un nom italien, et en fait, ça ressemblait énormément au nom de plume de Marlène Schiappa, pour les livres qu'elle a écrits.
Ok, d'accord.
Non, je me dis, Bon, on oublie le nom italien, on va passer sur autre chose, on va prendre quelque chose de plus simple. Voilà, comme ça, il y aura pas de... on va pas confondre, voilà. Bref.
Non, mais c'est pas grave, après, tu peux parler de tes origines d'une autre manière, tu veux aussi.
Exactement, je les ai mis dans mon livre, voilà. Exactement. Je les ai mis dans l'histoire, du coup, donc voilà.
Voilà, c'est une autre façon de faire marcher tout ça, mais oui, je comprends. C'est... Ouais, ça peut être un peu particulier. Surtout, encore là, c'était italien, mais t'as des noms anglophones, oui. Des fois, qui font un peu actrice de charme. Donc,
ouais, clairement, on est d'accord. Voilà.
Donc il faut être très très prudent quand on choisit un nom de plume. Mais en tout cas, tu as très bien réussi. Et j'aime bien le fait qu'il y a voilà, cette petite particule au milieu. On n'y pense pas souvent quand on choisit son nom de plume, d'avoir voilà, une lettre au moins pour différencier et rajouter un peu de mystère aussi sur le second prénom.
C'est ça.
Ah, alors, je vais te remettre un coup de vieux. Je suis désolée parce qu'on va parler des Skyblog.
Non. Ah, elle est pas.
Mais oui, parce que du coup, voilà, on parlait de l'écriture, comment t'en es venue, et je sais que sur ton blog, bah, tu parlais des Skyblog, je suis passée par là, moi c'était mes premières fanfictions, des trucs sur les mangas, etc. Et j'aurais voulu que tu nous parles un peu de cette époque, parce que je pense que pour les auteurs de notre génération, on est tous passés... Non, alors les blogs, oui, mais les Skyblog, en plus.
Les Skyblog.
Comment ça se passait sur toi, pour toi, sur...
Alors... sur Skyblog, quelle aventure. Quand j'y repense, je me dis que mes parents étaient très très cool quand même, parce que j'étais super jeune et que c'était vraiment n'importe quoi, et que moi qui suis maman aujourd'hui, ma fille elle aura pas un portable avant ses 21 ans je pense, donc quand j'y repense je me dis que j'ai des parents qui ont été vraiment cool. En fait j'étais toute, enfin je sais pas quel âge t'avais, tu te rappelles l'âge que t'avais toi, au premier Skyblog?
J'étais au collège, je pense que...
J'avais
alors,
12 ans,
à la... le prime, on va dire, le pic vraiment des Skyblog, j'avais genre 14 ans, je crois, j'étais en quatrième. Mais ouais, bah donc ça a dû commencer entre, voilà, 12, enfin, le gros pic, 12, 13 ans.
Ouais, en fait, à la base, c'est parce que, donc je vais le dire, je suis née en 94, je l'assume. Je suis clairement née 10 ans en retard. C'est-à-dire que j'aurais rêvé avoir 20 ans au début des années 2000, j'aurais rêvé avoir une histoire d'amour sur Nokia 3310, tu vois. Et du coup, j'ai trois cousines belges, parce que ma maman est belge, et j'ai trois cousines qui ont une dizaine d'années de plus que moi, enfin elles s'étalent toutes les trois, et j'étais fan d'elles, et elles étaient hyper modernes et hyper connectées à l'époque, et donc la plus jeune d'entre elles, elle avait un Skyblog, et du coup c'est elle qui m'avait fait découvrir, tu vois, le monde du Skyblog. Et au début, c'était un moyen pour moi de rester connectée avec mes cousines, tu vois, de partager des trucs, d'échanger, de s'écrire des petits mots. C'était la période des mécènes, hein, de toute façon, ça allait avec. Oui. Et donc, c'était surtout pour communiquer avec mes cousines à la base, dont j'étais absolument fan. Je suis toujours d'ailleurs, qui étaient mes vrais modèles. Et j'ai pas fait de fanfiction et tout ça, mais je pense que je racontais un peu ma vie, clairement. C'est pour ça que je dis que mes parents étaient complètement inconscients. Et je partageais des photos d'acteurs que j'aimais bien, tu vois, des trucs qu'on n'avait pas du tout les droits, qu'on allait piquer sur Google Images.
Absolument. Les trucs vraiment pixelisés, puis après tu faisais des montages.
C'est mort.
Aïe, aïe, aïe.
L'époque où on écrivait des 3 pour faire des E, là. Enfin, des ces conneries, là. Donc, voilà, les cœurs, toutes ces choses-là. Donc, non, j'ai pas fait de fanfiction, moi. C'était plutôt des, tu vois, des poèmes, des récits de mes vacances, tu vois, des trucs bêtes. Mmh. Mais ouais, c'était plutôt ce genre de choses. Il avait un nom bien rock'n'roll parce que j'étais fan d'Avril Lavigne à l'époque. Donc, c'était rock, je sais plus quoi. Tu vois, à l'époque des converses avec les lacets à damier et tout ça, là. Voilà, c'était
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Que tu dessinais dessus au stylo, bien sûr, ouais. Avec des petits messages.
Avec
juste...
les... C'est ça.
Oui.
T'as tout compris. Non, mais ça qui se passe avec les paroles de Sum 41, tu vois.
On voilà, a tous eu la même vie. C'est dingue.
Voilà. Donc, c'est... Non, ça, c'était ma période Skyblog. Mais ouais, ça a duré 2 ans, je pense. En fait, c'était un peu l'ancêtre de Facebook. C'était surtout pour se donner des nouvelles pour moi. Et après, j'ai eu Facebook à l'ouverture, je crois, en 2009. Encore un truc inconscient, mais ouais, ça doit être ça, ouais.
Ouais, moi, je l'ai vécu légèrement différemment parce que ma mère était très stricte. Justement, j'avais pas le droit de mettre... Je pouvais y aller, mais j'avais pas le droit de mettre des choses sur ma vie, pas mon vrai prénom. Pas de photo. Donc, et Facebook, au début, j'avais pas le droit de mettre une photo de moi. Donc, il y avait mon vrai... À l'époque, on mettait pas trop les pseudos. Donc, c'était vraiment
non, c'est vrai.
Vrai prénom pour trouver les classes, tes camarades, etc. Mais les selfies, j'avais pas le droit. J'ai eu un téléphone quand ? Avant le lycée quand même. Je pense que c'était en troisième parce que justement, tu commences à faire un peu plus les pyjama party entre guillemets. Donc c'est en mode, j'ai un peu marre d'appeler les parents, donc faut que t'aies un téléphone. C'est un peu plus pour te pister toi, tu vois, qu'autre chose. Donc ouais, j'ai pas eu tout à fait la même expérience, mais c'est vrai que j'étais trop fan des Skyblogs, justement, des filles qui avaient le droit de parler d'elle et qui faisait des montages. Donc, il y en avait, c'était vraiment, tu sais, le style bah, Avril Lavigne, Tokyo Hotel, super emo. C'était ça. C'était trop cool. Donc, j'étais très envieuse des gens qui avaient des Skyblogs comme toi.
Voilà.
Donc, je reconnais tout ça.
Belle époque, tout ça.
Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est là où on voit aussi l'évolution au niveau de l'écriture et des réseaux sociaux, parce que même si c'était un blog, comme tu le dis, bah, y avait le côté commentaire où on se laissait des messages. Après, il y a eu ce Facebook et on voit bien depuis plus de 10 ans maintenant que ça évolue super rapidement. Donc en ce moment, c'est TikTok qui est à fond, mais dans 3 ans, qu'est-ce que ça va être
autre chose, c'est clair. Mais il y avait ce truc où les Skyblogs, t'y allais parce que tu connaissais les adresses des gens et du coup, tu le partageais quand même en priorité à ceux avec qui t'avais envie de le partager. Il y avait quand même peu de chance que tu te retrouves avec n'importe qui. Enfin, c'était possible, mais c'était quand même...
Je pense que ça dépendait le nom de ton blog ou si t'avais vraiment une niche. Bah voilà, c'est les gens qui faisaient style sur Naruto ou genre... Il y avait beaucoup de comptes sources. Je sais pas si tu te souviens de ça. Genre sur les acteurs, justement. Genre sur Zac Efron, Vanessa Hudgens, etc.
Donc la ça forcément ça musical. Ouais, c'est ça.
Non mais je me rappelais qu'ils faisaient même des tutos pour tu sais, ils avaient des montages quand il y avait les photos paparazzi. Bon là, je vais rentrer dans une niche mais et tu avais des montages où tu pouvais faire 2 images en une, mais genre c'était fondu, tu vois. Et les gens, les comptes sources, ils faisaient des tutos si toi tu voulais faire ça, et c'était genre bon, c'était pas Photoshop du coup, c'était pas Paint, je me rappelle plus. Peut-être Gimp ou je sais plus quel autre nom, enfin un truc gratos. Quoi. Photofiltre, c'était Photofiltre.
Photofiltre, mais oui, Photofiltre, mais oui, c'était ça, je l'avais.
Donc, je faisais des tutos Photofiltre pour t'expliquer comment faire ça. Et mes premiers montages, j'ai appris par rapport à des comptes sources style Zac Efron et compagnie, France, où il y avait je sais pas combien de lectures par mois. Et ils te faisaient des tutos en mode, oui, moi, mes montages, je les fais comme ça et tout. Mais c'était hallucinant, en fait. Enfin, c'est... l'ancêtre des Instagram maintenant de fans. Mais
on commençait à se rendre compte qu'on pouvait apprendre plein de choses, quoi. Enfin, tu pouvais tout apprendre. C'est là qu'on a compris qu'on pouvait tout apprendre. Ça veut pas dire qu'on a tout appris et qu'on a fait que des choses bien. Mais c'est là qu'on a compris qu'on pouvait partager plein de choses, quoi. Il y avait plein de... Ouais.
Non, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était la parenthèse nostalgie années 2000 Skyblog. Bah, on va faire un bond dans le temps. Je vais t'amener un peu plus loin quand même. Je voulais parler un petit peu de tes métiers. Actuellement, tu es rédactrice web. Donc, mais tu as toujours eu des métiers qui avaient quand même qui étaient liés plus ou moins à l'écriture. Donc, tu as été professeur des écoles, par exemple. Donc, tu parlais d'un de tes rêves, c'était certes de devenir romancière, mais tu as parlé aussi maîtresse. Donc, ça a été un frein, selon toi, ou au contraire, ça t'a aidé dans ton écriture? Parce que, voilà, on le rappelle, l'éducation nationale, c'est très compliqué et c'est très, 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 très prenant. Donc,
merci, Maëva, de le dire. Je sais pas si tu as des amis profs pour dire ça.
Voilà. J'ai beaucoup d'amis profs et j'ai failli passer par là, mais je me suis arrêtée avant les concours, justement, parce que je me suis rendu compte que je ne serais pas heureuse dans l'éducation nationale. Mais je voulais devenir soit prof d'anglais en France, soit prof de français à l'étranger.
Bah, c'est ce que je voulais faire ado, moi. C'était ado, je voulais faire ça. Je rêvais d'être. En fait, j'avais un super prof d'anglais au collège qui m'a vraiment donné le goût de l'anglais. Enfin, vraiment, il était super. Et donc, à cette période-là, je rêvais de vivre en Angleterre. C'était la période où j'avais tout à l'effigie de l'Angleterre dans ma chambre. C'était trop. C'était kitsch. C'était
Valérie D'Amido est passée par là, quoi.
Pas grave. Mais c'était mais t'as tout compris. C'était la période Valérie D'Amido, les plaids aux effigies. J'aurais fait un mur rouge que, heureusement, ma mère a refusé. Mais c'était un peu l'idée, tu vois. Donc, bref, je voulais, moi, comme toi, être prof d'anglais en France ou alors prof de FLE. Et il se trouve que, du coup, j'ai passé le concours de professeur des écoles que j'ai eu en 2017. Et j'ai exercé très peu de temps, puisque rapidement, je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible les conditions qui m'étaient proposées aujourd'hui dans l'éducation nationale et que ce n'était pas... c'était pas le métier tel qu'il était il y a 20 ou 25 ans. Alors, certains pourraient dire, bah, t'aurais pu t'en rendre compte avant, mais avant de démissionner de l'éducation. Ouais, voilà, j'ai essayé. Et avant de démissionner, j'ai quand même échangé avec un certain nombre de profs, des jeunes et des moins jeunes. Mmh. Et parmi les moins jeunes, il y en a quand même beaucoup qui étaient d'accord pour dire que, en 20 ans, c'était
ça changé, la... quoi. Ouais.
Et moi, c'était... moi, je voulais faire le souvenir que j'avais petite. Enfin, c'était... Et pas ce qu'on me proposait aujourd'hui. J'ai eu la chance de partir pendant mon Master 1 à Belfast, en Irlande du Nord, pour faire prof de FLE pendant un mois, dans une classe d'équivalence CP en France. Et honnêtement, si je n'avais pas rencontré mon mari à l'époque, je pense que je ne rentrais pas, je ne passais même pas le concours et j'essayais de rester là-bas. Donc voilà. Et pour répondre à ta question, puisque j'ai encore fait un gros détour.
Non, non, mais c'est... t'inquiète pas.
Bah, c'est prenant, comme tu l'as dit, c'est tellement prenant qu'en fait, je ne faisais que ça. Je travaillais jusqu'à minuit le soir, j'étais à 7h à l'école le matin, j'y passais mes vacances, donc je n'avais clairement pas le temps d'écrire. Par contre, j'avais beaucoup de matière à être inspirée, mais je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit pour moi. Parce que c'était le début, j'ai bien conscience qu'il y en a qui vont dire « Ah, ça va, prof, t'as du temps, machin. » Quand tu débutes, que t'es largué là, comme ça, si tu veux faire ton métier correctement, tu travailles à côté, c'est pas possible de faire autrement.
Non, et puis, bah, voilà, fin, tu dois faire ton programme, ça dépend. Bon, maîtresse, voilà, t'es en fonction des classes, etc.
Bien sûr.
Enfin, je pense pas que tu puisses être à l'aise avec un niveau, surtout avec les programmes qui changent rapidement.
Tout le temps.
La première année, ni la deuxième, ni la troisième, c'est pas possible.
T'as pas matière encore. C'est ça.
Surtout
quand tu le changes tous les ans. Donc voilà, ça a été un frein, oui, en termes de temps, parce que clairement, j'en avais pas. Mais en termes d'inspiration, ça m'a boosté.
Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, c'est encore une fois super drôle, parce que j'ai failli partir à Belfast en tant que prof de FLE.
C'est pas vrai.
Et trop drôle. Si, je te jure. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, tu sais. Moi, c'était pour un an, mais je me rappelle plus le programme qui est... c'est le programme France.
C'était dans le cadre du master, c'était vraiment juste un mois. Ouais. Je suis pas partie longtemps, donc.
Ok. Parce que moi, c'était en année sabbatique justement entre ma licence et mon master. Et bon, je me rappelle plus le programme tout de suite, mais c'est voilà, en relation avec la France, l'éducation nationale et là-bas en Grande-Bretagne. Et finalement, en fait, je suis partie hors programme parce que j'ai trouvé une école à Canterbury, donc dans le Kent. En Angleterre, c'était plus intéressant pour moi au niveau des missions qu'ils allaient me donner, etc. Donc, j'ai choisi de partir hors programme. Mais voilà, Belfast m'avait été proposé, donc je trouve ça drôle.
Ouais, c'est trop cool. Moi, j'avais adoré. Hein. Vraiment, c'était vraiment chouette. Une chouette expérience.
Malheureusement, l'éducation nationale n'a pas marché pour toi, mais d'un côté, bon, c'est des leçons et ça t'a permis aussi d'être là où tu es aujourd'hui parce que tu fais d'autres choses.
Mm.
Et donc, aujourd'hui, l'écriture remplit 100% de ta vie parce que tu es 100% autrice pour une bonne partie.
Une bonne partie, c'est-à-dire en fait, donc je suis rédactrice web, comme tu as dit tout à l'heure, et donc autrice depuis peu de temps. La rédaction web, c'est une activité qui est assez récente pour moi, dans le sens où je suis officiellement depuis janvier 2023 en tant que freelance. Et pour l'instant, comme c'est encore un peu mes débuts, c'est pas une activité dont je vis à temps plein. Et notre époque étant ce qu'elle est, n'est-ce pas, notamment l'inflation record de 2023, j'ai été contrainte de prendre quand même un boulot salarié à côté. Donc, j'ai un temps partiel, j'ai mon activité de rédaction web et j'ai mes livres. Donc, je ne m'ennuie pas, puisque je suis maman d'un bébé également. Du coup, voilà. Mais bon, bref.
Beaucoup de choses à faire.
Beaucoup de choses. Mais l'écriture, oui, prend une grande place dans ma vie, ça c'est sûr. J'écris tous les jours, alors pas forcément pour mes romans, mais avec la rédaction web, forcément un peu. Et puis, tu sais bien, quand on doit communiquer sur nos livres, quand c'est le blog, le compte Instagram et tout, t'écris forcément un petit peu tous les jours.
Ouais, tout à fait.
C'est la seule activité que je peux faire où je suis capable d'oublier de manger ou d'aller dormir ou... Enfin, vraiment, c'est la seule activité qui me prend comme ça, tu vois. Donc, j'aimerais bien pouvoir, à temps plein, un jour, ne faire que ça, quoi. C'est mon rêve.
Ouais, tu m'étonnes. Ça serait trop cool. Et la rédaction web, est-ce que tu as des niches un petit peu où, parce que j'ai commencé comme ça aussi. Bon, là, en ce moment, on va dire que mes missions freelance ont bougé un peu, donc je suis moins dans la rédac web, même si j'en fais encore un peu. Mais moi, ma difficulté, justement, ça va être de trouver des missions qui me plaisaient dans les thèmes, quoi, puisque j'ai commencé où j'écrivais sur des aspirateurs robots. Ça fait moins rêver que écrire pour, des blogs voyages, mais bon, malheureusement, il y a peu d'offres et donc peu d'élus. Et
on est d'accord.
Beaucoup de rédacteurs et rédactrices web, parce qu'il y a eu un gros boom
avec le Covid.
Des compagnies, forcément. Bon, voilà, avec l'IA, maintenant, c'est encore plus compliqué de trouver, non pas des missions, mais on va dire que d'avoir des clients en face qui comprennent la différence.
Et l'intérêt.
Voilà, c'est ça, qu'un humain, c'est bien aussi. Ça peut apporter plein de choses, parce que mon ChatGPT, c'est bien pour certaines choses, mais sur le long terme, pour une stratégie, voilà, sur ton blog, tu parlais de SEO, etc., c'est pas toujours parfait.
Alors moi, du coup, j'ai fait le choix, enfin comme toi, de chercher des projets, des marques pour lesquelles j'ai de l'intérêt, et surtout, je cherchais pour lesquelles j'ai des compétences. Mm-hmm. Et du coup, après avoir été professeur des écoles, j'ai été socio-esthéticienne, qui est un métier qui est peu connu, qui est du coup un métier où on utilise les soins esthétiques et les soins de bien-être auprès des publics fragilisés. Donc moi, dans mon cas, donc j'étais indépendante, c'était ça ma première entreprise. Et en fait, j'intervenais dans les structures médicales et médico-sociales. Ça pouvait être auprès de publics en soins palliatifs, de femmes victimes de violences. J'ai travaillé pas mal aussi auprès de SDF, d'adultes handicapés. Et en gros, le travail, c'est de redonner l'estime de soi à ces personnes-là, qui a pu être altéré soit par la maladie, quand c'est en cancérologie par exemple, où là tu vas en faire un énorme travail au niveau de la réappropriation de l'image, notamment le maquillage quand tu as perdu tes sourcils, tes cils, etc. Ou alors de se réapproprier son corps quand on a vécu des violences, ou voilà, quand on a une perte d'estime de soi parce qu'on a une histoire de vie très compliquée. Et donc, c'est un métier qui me passionnait, et je me suis dit, j'ai pas pu le continuer pour des raisons de santé, qui n'étaient pas du tout dramatiques, mais qui étaient très contraignantes avec l'exercice de ce métier. Du coup, je me suis dit, j'aime tellement ça, il faut que je trouve au moins une entreprise où je peux partager mes compétences et mes connaissances dans ce domaine-là. Et du coup, je travaille pour le blog d'une entreprise qui propose des solutions pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux à cause de la chimiothérapie. Et du coup, j'alimente le blog où je donne tous les conseils que moi je connais, et voilà, enfin tout ce que je peux autour de l'image de soi pendant le cancer. Donc ça, un peu ma petite niche, ça c'est sûr, mais il n'y a pas, y a pas 36 000 marques pour lesquelles je peux travailler, mais j'adore travailler avec cette entreprise. Et voilà, donc ça c'est, beauté, santé, c'est mes domaines de prédilection. Après, il m'est arrivé de travailler pour des choses en rapport avec l'alimentation. Oui, santé aussi, j'allais dire. En fait, j'ai pas eu tant de clients que ça. Pour l'instant, c'est des réguliers. Donc, c'est surtout avec cette cliente autour de la cancérologie, du bien-être et de la beauté pendant la maladie. Et j'adore.
Voilà, au moins déjà tu connais, c'est quelque chose avec lequel tu as de l'expérience. Et puis, c'est vrai que côté clientèle, vaut mieux que ça soit régulier. Donc, même si c'est moins de clients en nombre, mais que tu les as tous les mois, en tant que freelance, c'est important, quoi. Donc,
carrément.
Je comprends tout à fait que tu veuilles rester dans cette niche pour justement être plus stable.
Complètement. Donc voilà, la rédaction ne prend pas 100% de mon activité professionnelle. Un jour peut-être.
Je te le souhaite. Et puis même l'écriture tout court.
L'écriture,
aussi,
non mais sinon l'écriture tout court. Voilà, juste ça. La rédaction web, bye bye.
C'est ça. Merci, c'était très sympa. Mais du coup, j'ai des romans à écrire, donc.
Salut.
Ça, c'est le rêve de beaucoup. Hein. Et je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Hein, parce que c'est cool si on peut y arriver, tout à fait. Écoute, avant de continuer, je voulais faire un petit interlude. Et comme je sais que tu écoutes le podcast, tu sais ce qui arrive. Donc, il y a quelques mois maintenant, j'avais lancé une nouvelle interview Inception, puisque j'aime bien, pour les petits nouveaux, pour expliquer, faire une interview dans l'interview. Donc, j'ai eu plusieurs concepts qui se sont décliné, et là j'avais commencé un concept qui s'appelle l'interview catastrophe. Donc c'est répondre à une ou deux questions d'un scénario catastrophe, et qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation, voilà, en tant qu'auteur ou en tant que personne. Donc est-ce que tu es prête à relever
bien le défi? Bien évidemment, il n'y a pas de jugement dans mes réponses, personne ne va me juger.
Non, parce que de toute façon, moi je pose les questions, mais peut-être que je ne serais pas capable d'y répondre, donc je ne peux pas.
Sympa, okay. Super.
Non, mais t'inquiète, ça va le faire.
Vas-y. Allez, alors, je me concentre.
La première, c'est, tu es sur un bateau qui malheureusement coule, et tu te retrouves bloqué sur une île. Mm-hmm. Tu es sur une île déserte. Quels sont les trois objets que tu sauves du naufrage, donc du bateau, pour t'en sortir?
Pour m'en sortir?
T'as le temps de choper trois objets sur le bateau pendant qu'il coule, parce que tu sais que tu vas être sur une île, et il faut que tu t'en sortes avec ces trois objets. Qu'est-ce que tu
prends? Oh là là, un couteau. Un couteau, Un couteau. Qu'est-ce que je prends d'autre sur le bateau? Oh, une bouteille d'eau. Pour pas me déshydrater, c'est important si je veux
T'as raison.
survivre. Un téléphone, s'il y en a dans le bateau. Un truc GPS, ils doivent bien avoir des talkie-walkie qui
Oui,
vont
je
partout
pense
dans
qu'ils doivent avoir des
les.
trucs.
Bon, on prend
C'est
ça,
vrai.
comme ça on vient nous chercher, on n'a
Très
pas
bien,
besoin
t'as
de
les trucs.
survivre.
C'est bien, toi, au moins, c'est réglé très rapidement. Tu peux. Alors, moi, j'ai toujours lu, il faut pas forcément prendre, tu sais, les espèces de. Parce que j'avais fait ça dans des exercices, tu
Ouais.
sais, de management, quand tu dois travailler en équipe, c'est une question qu'on te pose souvent. Et tu dois voir avec les personnes, tu as une liste d'objets, tu dois choisir avec eux et tout. Et beaucoup se ruent sur les fusées de détresse, ce qui peut être intéressant si tu es encore sur le bateau, mais si après l'eau, t'es foutu, donc ça sert à rien.
C'est plus la peine.
Et sinon, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est le miroir. Il te faut un miroir parce que tu peux refléter le soleil. Et donc, pour les avions ou les autres bateaux, tu peux leur faire un signal. Alors que, par exemple, le feu ou
Ah, mais
les.
avec mon
Enfin,
couteau,
voilà,
avec la lame de mon couteau, ça
Eh
peut
ben
peut-être.
voilà,
Eh,
exactement.
j'étais pas trop à côté de la plaque.
Multifonction le couteau, donc t'as raison. Bon voilà, si un jour vous devez faire Koh-Lanta ou que vous
Cool.
échouez sur une île, retenez ces objets, peut-être que ça
Miroir.
peut vous servir. C'est ça, exactement. Alors, on va rester sur un truc qui pourrait être. Ouais, je sais pas, à voir. Alors, donc la terre tremble
Ouais.
et tu te retrouves coincé au sommet d'un gratte-ciel en construction. Qu'est-ce que tu
Angoisse.
fais?
J'angoisse. Qu'est-ce que je fais?
Oui, je crois
J'appelle
que j'ai
mes
pas fini
proches.
cette question.
J'appelle mes proches et je leur dis bon bah salut. Non, qu'est-ce que je fais? J'ai des choses à ma dispo.
Tu peux. Je crois que j'ai pas fini cette question, j'ai juste marqué ça, donc tu es libre.
Elle est vache cette question.
Oui, de ouf.
Ben en vrai, non mais en vrai, dans une situation comme ça, je fais une crise de tétanie et puis c'est tout, hein, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc voilà,
Je
c'est ça
pense
ma
que pareil.
réponse.
Je pense que j'aurais une crise d'angoisse aussi et que je serais bloquée en mode qu'est-ce que
Voilà,
je fais?
ce sera
Donc
ça ma
non,
réponse.
je comprends. Mais effectivement, si t'as un téléphone, tu peux appeler les secours ou ta famille ou voilà. Mais ok, très bien. Voilà, la torture est terminée.
Ça va.
Alors, pour revenir du coup à l'écriture et à tes projets, dans ton blog, tu dis que tu as déjà écrit un roman de non-fiction. Et
Oui.
j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous parler parce que de ce projet, c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup de fiction en tant qu'auteur et pas souvent de témoignages ou voilà de témoignages.
Alors c'est vrai, du coup, tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais commencé à écrire en 2021, mais c'est faux. J'avais écrit un premier manuscrit en 2019, et donc c'est celui dont tu parles, qui était un témoignage de ma vie. J'avais été jusqu'au bout. Et en fait, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Sans surprise, j'ai eu des refus. Et en fait, juste le fait d'avoir couché les mots sur le papier et d'en avoir fait un truc un peu plus officiel que d'écrire dans ton journal intime d'idole, ça en avait fait un. Tu vois, il y avait une sorte de vertu thérapeutique d'être allé au bout de ce manuscrit. Et quand on m'a dit non, j'ai dit bah ok, c'est bon, non. Et du coup, maintenant, je passe à autre chose. Ça m'a permis d'extérioriser. Et du coup, je suis pas allée plus loin. J'ai pas cherché à. J'ai voulu me détacher en fait de cette histoire et je pense que pour m'en détacher, il a fallu que je l'écrive. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que l'écriture, c'est pas forcément que pour être lu par les autres. Ça peut
Tout à fait.
aussi être pour soi, pour aller mieux. Et si au départ, ce livre, je l'avais écrit un peu comme un cri de colère à la terre entière où j'avais envie que tout le monde sache, ben en fait, juste le fait d'écrire, ma colère était passée et je me suis dit, ok, bah ça c'est ton histoire. J'ai plus envie de m'y identifier. On passe à autre chose. Donc voilà.
Oui.
C'était ça le premier projet sur lequel je suis allée au bout, entre guillemets, dans le sens où je suis allée au bout du manuscrit, vraiment.
Oui, c'est peut-être finalement un peu comme l'idée quand tu écris une lettre à quelqu'un que tu vas pas forcément envoyer parce que tu as besoin de te détacher de ce que tu
C'est
veux
ça.
dire à cette personne. Bon, là, tu te parles à toi-même parce que c'est ton témoignage, mais le permettre d'extérioriser, pardon, comme tu
Ouais.
dis, de passer à. Bah, de plus être dans le mode journal et ouais,
Mais c'est
de
quelque chose que je
coucher sa
conseille
colère sur
hein,
papier.
aux gens qui sont en souffrance par rapport à leur histoire de vie ou à des événements traumatiques de leur vie. Je trouve que de l'écrire vraiment, ça permet de s'en détacher, de le sortir de soi quelque part et d'avancer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu.
Est-ce que c'est un exercice que tu as pu faire justement par le passé en tant que socio-esthéticienne avec des patients ou pas vraiment? Parce que j'imagine au niveau du temps, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais.
D'écrire avec eux, tu veux dire?
Ouais.
Alors non, écrire non. Après, Clairement, c'est un métier, enfin, en tout cas, moi, la façon dont je l'exerçais, où je passais plus de temps, en effet, à permettre aux gens de s'exprimer. En fait, si tu veux, c'est un métier où la beauté, c'est un prétexte, en fait. Le but, c'est, en touchant les gens, mais au sens propre comme au figuré, de les aider à se libérer. Et donc, c'est clair que ça aussi, par exemple, mon expérience de socio-esthéticien, je pourrais écrire des centaines de romans avec ce que les gens ont été capables de me raconter. Donc, il y avait ce côté libérateur de par l'échange qu'on pouvait avoir. Mais écrire, je réfléchis si on l'a fait, mais on ne l'a pas fait. Par contre, tu vois, quand il a fallu que je change de métier à cause de ce problème de santé, aller écrire les histoires de vie des gens, notamment en soins palliatifs, c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin, qui m'intéresserait. Ouais. C'est quelque chose que je n'exclus pas de faire un jour. Parce que je trouve ça passionnant, quoi, de permettre de livrer leur récit de vie. Enfin, je trouve ça super. Donc,
ouais, oui, tout à fait. Être un peu près de plume, finalement.
C'est ça, complètement. Complètement. Quelque chose qui me plairait beaucoup.
D'accord. Et pareil, bah, sur ton blog, tu parlais que tu avais voulu participer à un concours d'écriture. Ouais. Mais que tu t'étais rendu compte que le manuscrit sur lequel tu travaillais à ce moment-là ne matchait pas trop parce que c'était un livre qui se passait en 2004.
C'est ça.
Avec une héroïne de notre génération à nous, du coup.
C'est ça.
Donc, est-ce que tu pourrais nous le pitcher ?
Oui, alors en fait, c'est un livre, enfin un manuscrit que j'ai commencé en janvier l'année dernière. Donc, j'en avais fait un premier en 2021. Je ne suis pas allée tout à fait au bout et j'ai voulu me relancer dans une nouvelle histoire en janvier l'année dernière. Et donc, ça se passe en 2004. Donc, la fille est plus âgée que nous, du coup, puisqu'elle a une vingtaine d'années, 25 ans en 2004. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma, qui est étudiante en master de psychologie, qui doit faire un stage pour sa dernière année et qui se retrouve dans une structure sociale, justement. Donc il y a un peu d'inspiration de ce que moi j'ai vécu dans mon métier, et qui va faire la rencontre d'un éduxpé qui s'appelle Jack, qui est d'origine écossaise, et ils vont se lier plus ou moins d'amitié. C'est un roman que je ne peux pas te pitcher tout à fait parce que je veux vraiment le réattaquer là, cette année. Et il est possible que beaucoup de choses changent, mais Emma et Jack seront toujours là. Et voilà, ça se passe en 2004 et il y a bien évidemment toutes mes références que je place partout. Voilà, c'est une histoire, c'est une romance. Je ne suis pas certaine que ce sera une vraie comédie romantique, mais ce sera de la romance quoi qu'il en soit.
Oui, en fonction des thèmes abordés aussi.
Je pense que ce sera un peu moins léger, j'aime pas ce mot, mais que Nos amours envolés, tu vois.
Ok, d'accord. Oui. Bah justement, venant à Nos amours envolés, donc en regardant le résumé sur Amazon, j'ai vraiment senti la patte un peu Bridget Jones française. J'ai trop kiffé, hein, honnêtement. J'attends de finir mon livre pour m'y mettre. Parce que voilà, c'était vraiment j'avais l'impression de lire un pitch des comédies romantiques dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, Nos amours envolés, c'est en effet, c'est un peu marqué à la Bridget Jones, forcément. C'est une histoire du coup que j'ai écrite, c'est celle-ci que j'ai écrite pour un concours.
Ok.
Et du coup, j'ai réfléchi en moins de 24 heures parce que j'ai découvert le concours 24 heures avant le début. Et du coup, c'est l'histoire d'une professeure des écoles qui s'appelle Vic, qui vient de se séparer. Elle s'est fait, son copain l'a quittée il y a peu de temps et elle approche la trentaine et elle fait partie de cette génération que j'estime être un peu la mienne, entre j'ai l'impression qu'on a grandi entre un jour mon prince viendra, tu vois, et non mais je suis une nana, je peux me débrouiller toute seule, en fait j'en ai rien à faire, tu vois, et on est un peu à cheval entre ces deux identités, enfin moi c'est mon ressenti personnel en tout cas d'être un peu à cheval entre ces deux identités là. Et donc Vic, elle est un peu comme ça, elle est un peu genre non mais c'est bon, je suis indépendante, je suis une femme en 2023, c'est bon. Et en même temps il y a ce côté un peu rêveuse de bon bah j'aimerais bien quand même rencontrer l'homme de ma vie. D'où le traumatisme des personnes qui ont regardé trop de comédies romantiques. Et bref, donc c'est une professeure des écoles, un peu dépitée par son métier, faut le dire, qui donc vit seule parce que Paul l'a quittée il y a peu de temps. Elle vit avec son chat qui s'appelle Trump, qui est un vrai tyran, qui lui fait la misère tous les jours. Et c'est une histoire avec une bande d'amis. Donc elle a deux meilleures amies qui s'appellent Safia et Justine. Et en fait, Justine vient de leur annoncer qu'elle se marie. Et que le mariage doit être prêt dans 4 mois. Et qu'elle compte sur Victoire et Safia pour tout gérer avec elle. Et donc, Vic, elle est moyennement emballée par l'idée. Elle trouve que c'est un peu précipité, en plus, comme mariage. Elle se retrouve embarquée dans l'organisation de ce truc qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Et comme Justine, elle est un peu contrôle freak, elle organise tout bien, tout parfait, machin. Il y a des groupes WhatsApp, des Google Docs pour tout organiser. Elle finit par rencontrer les témoins du marié. Et parmi les deux témoins du marié, il y a quelqu'un que Vic va rapidement reconnaître. Et de là, va commencer un petit peu l'histoire pour essayer de comprendre quel est le lien avec cet autre témoin qui s'appelle Ben. Voilà. D'accord. Et on suit ensuite l'aventure de Vic. Je voulais une vraie comédie romantique dans le sens où l'histoire d'amour, elle n'est pas centrale, même si elle est toujours là en fond. J'avais envie qu'il y ait vraiment une place pour... la vie professionnelle de Vic, ses amis d'enfance, la bande d'amis, elle prend une place très importante tout au long de l'histoire. Et je voulais un ancrage très français. Donc, c'est une histoire qui se passe entre Toulouse, elle habite à Toulouse, et l'Aveyron, où du coup va se dérouler le mariage dans le sud d'Aveyron avec toute la Smala.
D'accord. Voilà, okay. Oui, mais c'est bien parce que je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des romans qui se passent en France et qui soient bien ancrés autre que Paris.
C'est ça.
C'est vrai qu'on a tendance à penser... Moi, la première avant, hein, j'avoue que ça fait moins rêver puisque tu as envie de partir dans des contrées lointaines. Mais en fait, c'est pas plus mal, justement, au niveau des références, etc., d'avoir quelque chose qu'on connaît. Quoi,
c'est ça. Voilà. Okay. Voilà un petit peu.
Et c'est vrai que tu as choisi l'édition indépendante.
Oui.
Et je voulais savoir si c'était un choix du cœur. C'était vraiment... tu t'es dit, parce que tu es auto-entrepreneuse, tu es freelance, donc tu as l'habitude d'être super organisée et de mener ta barque. Est-ce que c'était du coup ce choix-là où tu voulais être 100% indépendante? Ou alors c'était aussi en mode, j'ai pas forcément envie de l'envoyer en maison d'édition, mais t'étais pas fermée à un contrat. Comment t'as envisagé cette parution?
Il a jamais été question de l'envoyer en maison d'édition. En fait, c'était clairement l'auto-édition, c'était clairement un choix du cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais pas envie d'attendre 6 mois, 1 an pour qu'on me dise non. Tu vois, enfin, genre il va rien se passer. La deuxième chose, j'aime beaucoup tout faire toute seule. Et du coup, je trouve que l'aventure de l'auto-édition, enfin, même si tu te fais accompagner par des freelances à côté, c'est super, mais ce truc de tes maîtresses de ton projet de A à Z, c'est toi qui décides de ta couverture, de quand il sort, de comment tu écris, de ce que tu mets dedans. Enfin, personne ne va te dire tu dois faire ci ou ça. Et puis, il y a aussi ce truc, je suis très transparente là-dessus. Moi, j'ai quand même envie de gagner un peu ma vie avec les livres.
Ah, mais tout à fait,
et j'ai pas honte de le dire. Et si j'avais été dans une maison d'édition, je pense qu'à moins d'être très, 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 très connue, les revenus n'auraient jamais pu être ceux que je peux espérer avoir en auto-édition sans être très connue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait l'aspect financier aussi. Clairement, je le dis, je pense que c'était plus intéressant pour, en tout cas, dans mon cas actuel, c'était plus intéressant pour moi.
Ah non, mais t'as raison, parce que de toute façon, il y a beaucoup qui font ce choix, non pas que pour cette raison, mais ça y participe
bien sûr,
quand tu compares, ne serait-ce que sur la plateforme Amazon, tu passes de entre 8 et 10% pour une maison d'édition, 10% c'est vraiment s'ils sont généreux, normalement c'est plutôt 8, on va dire la moyenne nationale, après j'imagine que si t'es très connu, tu peux forcément négocier, mais en tout cas bien quand sûr. Tu commences, c'est différent, et Amazon, mais c'est le cas aussi pour d'autres plateformes, en fonction de où tu veux mettre ton livre, c'est facilement 70%. Donc, en fait,
il n'y a pas photo.
Quoi, y a pas
photo. Comme les chiffres de la romance, quoi, c'est évident. C'est les chiffres qu'on parlait.
Exactement. Voilà. Donc, après, il y a des raisons différentes. Il y a des gens qui veulent être publiés dans une maison d'édition pour le côté prestige et le côté j'en rêvais, mais je ne veux pas forcément en vivre. Mais si tu veux en vivre, c'est quand même beaucoup plus facile. Ce n'est pas facile, mais plus facile en auto-édition d'en vivre que en édition traditionnelle, ça c'est, c'est certain, même si ça reste compliqué. Hein,
mais cette histoire, tu vois, c'est pas du tout de la fausse modestie, hein, mais cette histoire de prestige, c'est pas quelque chose qui m'a... En fait, moi, ce que j'aime, c'est faire rire et sourire les gens avec des histoires dans lesquelles ils peuvent carrément se retrouver, tu vois. Il y a plein de scènes de nos amours envolées qui sont clairement inspirées de choses que moi j'ai vécues ou que mes copines ont vécues. Dans ce cas-là, j'ai leur accord. Je ne me suis pas permise de reprendre leur vie comme ça. Sinon, elles auraient été un peu surprises en lisant le livre. Je trouve ça super, hein, le prestige, mais je ne me sens pas... En tout cas, j'y trouve comme si je ne me voyais pas de toute façon ma place là-dedans et je ne la cherche pas tellement. Moi, je cherche à faire rigoler les gens ça me plaît, tu vois. À les faire sourire, à leur faire passer un moment doudou, tu vois. Ça, c'est ça dont j'ai envie. Donc, ouais, chacun son lecteur, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, enfin, je pense que ça dépend de la vision qu'on a. Et ça rejoint un peu le côté élitiste. Ça ne veut pas dire que les personnes qui veulent être en maison d'édition, c'est pas
bien. Ah, pas du tout.
Mais c'est juste que, voilà. C'est juste qu'il y a des personnes, c'est plus important que pour d'autres. Tout comme, je sais pas, il y a des personnes, c'est plus important de parler anglais ou parler italien, tu vois. Genre, tout le monde est différent. Donc, c'est juste, voilà, tant que la personne qui écrit s'y retrouve dans le contrat ou dans la parution qu'elle souhaite, c'est plus important. Et t'as bien fait de t'écouter, de te dire, bon, bah, j'ai envie de mener mon truc, plutôt que d'envoyer et voilà, d'attendre des mois ou des années et être déçue, alors que bah, de base, tu voulais faire ton...
Mon truc à moi toute seule.
Exactement, voilà, ouais, projet. C'est important. Mais c'est marrant ce que t'as dit sur le fait de reprendre un peu les vies des anecdotes de tes copines, etc. Parce que les gens ne se rendent pas compte quand on a des auteurs dans son entourage, tout ce que vous dites peut être réutilisé avec votre accord, mais quand même.
C'est noté, quoi. C'est dans un coin de ma tête.
Exactement. Ouais. Ok. Ah et bah, depuis tout à l'heure, je parle de ton blog d'écriture et je voulais revenir un petit peu sur ça, donc il s'appelle Marie et ses manuscrits, bah, comme ton Instagram. Et voilà, on a parlé des skyblogs, on a parlé des réseaux sociaux qui évoluent et je voulais un peu ton avis sur ce médium. Est-ce que selon toi, il est toujours d'actualité? Bon, t'es rédactrice web, donc tu sais le pouvoir forcément que les blogs ou les sites ont. Mais est-ce que voilà, tu penses que les blogs d'écriture ont toujours leur place ou pas du tout?
Bah, honnêtement, en tant que rédactrice web, on sait très bien que le blog, c'est important quand il y a un site de e-commerce derrière, parce que ça permet de faire découvrir la marque et les produits et donc de générer des ventes. Et donc, voilà. Après, moi, techniquement, j'ai qu'un seul produit et depuis peu, c'est mon livre. Il n'est même pas en vente directement sur le site, même si tu vois, il y a les liens. Je pense que l'apogée des blogs, c'était quand même en 2010, les blogs où il n'y avait pas de produits à vendre, je veux dire. Les blogs, blogs où
oui, tu racontes d'un point de vue storytelling, quoi.
Ouais, storytelling, c'était quand même plutôt les années 2010, à mon sens. Peut-être que je me trompe. Mm-hmm. Je l'ai quand même créé parce que comme j'ai cette nouvelle activité de rédactrice web depuis un an, c'était un petit peu mon laboratoire, tu vois, pour tester des choses et des nouveaux outils. Et après, j'ai fait quand même beaucoup, moi, de recherches sur Internet pour l'autopublication, mais des choses qui peuvent paraître basiques ou auxquelles on ne pense pas, mais... ou créer sa couverture de roman quand on le fait soi-même, quel logiciel de correction, comment on fait pour maqueter son livre, enfin toutes ces choses-là. Mmh. Et ça, moi, je l'ai bien tapé dans Google pour trouver des gens qui en parlaient. Et je me suis dit, bah, moi, maintenant que j'ai mon expérience un peu là-dessus, pourquoi ne pas écrire des articles sur ces sujets-là? Il y a bien des gens qui continueront de taper couverture de livre, comment faire dans Google, et qui pourraient tomber sur mon blog, et si je peux apporter des conseils... Enfin, tant mieux, tu vois. C'était plus, je le voyais plus. Enfin, je le vois plus comme un blog de conseils. C'est pas encore. Enfin, peut-être quand j'aurai d'autres livres publiés, j'envisagerai un site un peu plus vitrine, tu vois, de mes romans. Mais pour l'instant, je le voyais plus comme un support pour les autres auteurs qui se posent des questions ou qui auraient envie de, ouais, d'avoir des conseils sur des petites astuces de comment on fait ci ou ça quand on fait tout de A à Z, parce que l'auto-édition, tu fais quand même beaucoup de A à Z.
Oui, oui, oui. Voilà. Même si, comme mais tu en... disais, tu peux un peu donner à d'autres freelances, mais c'est toi qui mènes, donc ouais.
Tu vois. Mais c'est sûr que, oui, je pense pas que ce soit le meilleur des... Oui, le meilleur support aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en tant que rédactrice web, oui, c'est ce que je te dis, pour un site de... où il y a des produits derrière et tout ça, le blog est indispensable. Mais dans l'écriture, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres avis sur le sujet, ça m'intéresse, mais...
Ouais, justement, c'est un peu un débat. Donc, si vous voulez nous répondre sur Instagram ou sur autre, dites-nous parce que c'est intéressant. C'est vrai que de ce que j'ai pu observer, je pense que tu vois, c'est un peu à double tranchant parce qu'aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux ont beaucoup plus la cote, en tout cas par rapport au côté écriture. Et ben, on le voit aussi par rapport à l'instantanéité. Tu sais, quand t'as un TikTok de 3 minutes, en mode oh, c'est trop long. Donc, les gens, ils vont pas aller lire un article de 3000 mots.
On est d'accord.
Voilà, exactement. Même si, bon, c'est différent pour les livres, mais je pense que c'est pas le même état d'esprit. Donc, ça va être la différence. Mais de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un ras-le-bol, mais peut-être du côté plus auteur, je sais pas trop lecteur, sur justement, tu vois, les algorithmes, sur il faut super, faut publier super vite, il faut être sur cette trend, etc. Donc beaucoup de gens se détachent et beaucoup de gens sont en train de passer à la newsletter. Et ceux qui l'ont déjà, je suis en train de voir plein de collègues, j'en ai une, on passe tous à la newsletter mensuelle. Parce qu'on se rend compte que se forcer à envoyer toutes les semaines, c'est pas forcément super parce que c'est pas une super qualité. On saoule parce que si en plus t'es abonné à toutes les newsletters, moi j'adore de base, mais t'en reçois tous les jours, c'est chiant. Alors que si t'en as une par mois de tes auteurs que tu suis, c'est un peu le rendez-vous, quoi. Ça permet un petit peu un échange. Et beaucoup, donc il y a bon, la newsletter, on va dire un peu plus classique, MailerLite, etc. Mais beaucoup passent sur Substack aussi. Donc vraiment le côté storytelling et vraiment blog. Et je suis en train de voir là, cette année, donc bon, non, début 2024, donc fin 2023, fin 2024, de voir beaucoup d'auteurs, autrices surtout, repasser sur un côté blog, mais sur un autre support. Pas forcément blog, mais newsletter hybride. Et je trouve que c'est intéressant de voir. Est-ce que va avoir une renaissance de ça? Je sais pas.
Je pense de toute façon, moi je le vois bien, là, j'ai une newsletter aussi. Les personnes qui te suivent sont de toute façon celles qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais.
Ouais.
Donc je me dis... si elles suivent ta newsletter, c'est certainement elles aussi les premières à liker tes posts aussi sur Insta et à potentiellement aller vers tes relais d'articles de blog. Enfin, c'était les personnes les plus engagées auprès de ce que tu fais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à cette histoire d'algorithme. Il y a un ras-le-bol. Tu ne sais plus quoi faire en fait pour pouvoir être un peu visible. Et des fois, quand tu vois ce que certains font, tu te dis, mais non, faut pas faire ça pour... Hier, j'ai vu un short sur YouTube, j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour remonter dans un algorithme, quoi? Et on dépend de ce truc, et moi, ça me rend folle. C'est ce que tu disais dans tes podcasts, de se dire, bah, tu t'investis beaucoup dans ton contenu, et puis bah, à la fin, alors que toi, je ne sais plus combien tu as d'abonnés, mais tu n'as peut-être que 10% qui vont l'avoir en visu. Et,
ouais, que ce soit en like ou en story. Moi, j'ai vu une différence cette année, surtout sur les stories. Parce que bon, les posts, il y a des gens qui regardent pas forcément ce que je peux comprendre. Mais les stories, c'est ça qui est chiant quand tu... Bah, actuellement, bon, faut que je fasse un peu de ménage pour justement voir si c'est les personnes inactives qui plombent un peu. Je sais pas, on verra, j'y suis pas encore. Mais j'ai un peu plus de 1000 abonnés. Et en ce moment, j'ai genre 100 personnes qui regardent mes stories.
Ah, tu vois.
Enfin, c'est un écart. Et tu dis, bah, c'est dommage parce que... Bah, à ce compte-là, pourquoi ces personnes restent abonnées si elles ne voient pas? Est-ce que c'est qu'elles ne le voient pas parce que Instagram ne leur propose pas du tout? Parce que des fois, ça arrive, je dis « Ah putain, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tel auteur, tel machin », et je vais voir sur leur compte, et le fait d'aller voir manuellement, après, ils réapparaissent sur, ma page d'accueil, quoi. Donc, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Peut-être que ce n'est même pas exprès des gens, ou peut-être que, justement, mon contenu ne les intéresse plus, mais tu ne sais pas parce que, bah... elles ne se sont pas forcément désabonnées. Donc, c'est un peu compliqué de ce côté-là, mais c'est ma résolution de 2024 de me détacher de ça, de me dire... comme tu dis, voilà, les gens qui te suivent, ils te suivent. Quand tu as une newsletter, il y en a, ils répondent à tes mails, etc. Donc, tu vois les gens impliqués se concentrer sur ces personnes-là avec qui tu peux vraiment partager. Forcément, on a envie de toucher plus de monde parce que c'est comme ça aussi qu'on partage nos histoires, mais te dire que ce n'est pas des personnes que tu as en face de toi non plus. Donc voilà, comme on a plein d'éléments partout, moi des fois ça m'arrive aussi justement de couper un peu en me disant « Oula, j'ai trop de trucs, trop de pubs, trop machin ». Peut-être que les gens sont comme ça, ils ont envie d'être moins présents.
C'est, peut-être aussi.
Ouais, compliqué.
Grand débat. Grand sujet.
C'est ça, exactement. Et écoute, avant de passer à la partie conseil et fin de l'interview, je voulais rebondir un petit peu sur un de tes derniers posts où tu parles d'astrologie, de tarot et même de numérologie. Et je voulais savoir si ça t'inspire au quotidien. Parce que moi, c'est un truc dans lequel je me reconnais, un peu plus oracle que tarot. Et d'ailleurs, dans un de mes romans, j'en parlais un peu. Et j'aimerais creuser de ce côté-là. Donc, est-ce que ça te guide? Est-ce que ça t'apporte l'inspiration? Comment ça se passe pour toi?
Oui, c'est des outils qui me... Je le vois comme des outils et pas comme des sciences exactes. Je vais mettre tout de suite les bases avant d'être... Je suis souvent étiquetée dans mon entourage la fille au caillou, tu vois, parce que j'adore la lithothérapie, donc je suis la fille au caillou. Ou la sorcière. Voilà. J'utilise l'astrologie surtout et le tarot. Le tarot, de manière assez régulière quand même. Disons que ça me guide, tu vois, quand j'ai des questionnements ou des choses qui me viennent, ça me guide beaucoup. L'astrologie, je l'utilise dans son approche pas du tout prédictive, mais dans l'astropsychologie, tu vois, comprendre les comportements humains par les thèmes et tout, je trouve ça passionnant. Donc, ça me guide, oui, dans ce que j'ai, comment dire, ouais, quand j'ai des grands questionnements par rapport à ce que je dois faire ou quoi, par rapport au livre, par rapport à la date de publication, par exemple, c'est un truc avec lequel j'ai joué avec mon tarot. Et ensuite, j'ai utilisé un peu ça, cet aspect version caricature, parce que justement, je sais en rire hein, quand on se moque de moi avec ça. Et dans Nos Amours Envolés, il y a un personnage qui s'appelle Marisa, qui est du coup une caricature de cette nana-là qui use de ses pierres et de ses cailloux et de ses cartes de tarot. Et donc, je sais en rigoler aussi, tu vois, je sais où sont les limites. Donc oui, c'est un outil, c'est un outil qui m'accompagne au quotidien et duquel je peux m'inspirer pour écrire des personnages un peu caricaturaux.
Mais même d'un point de vue création des personnages, je sais que bah, moi, je regarde vachement les signes astro et tu rentres parfois dans des clichés, mais tu as aussi des traits de caractère qui peuvent être clichés dans tes personnages. Et c'est vrai que je me dis, ok, il est comme ça, donc il est forcément lion. Ouais, après, moi, même si des fois, leur date de naissance n'est pas importante pour le livre, mais moi, ça m'aide pour visualiser. Ou au contraire, je me dis, bon, bah voilà, il a... enfin, je le verrai bien, tel signe. Bon, bah c'est vrai que tel signe est un peu comme ça. Ça peut être intéressant à rajouter comme petit défaut ou au contraire comme moteur. Donc c'est un outil comme un autre aussi pour développer des histoires, mais ok, bah c'est super intéressant et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la date de parution de ton livre.
Ouais, tu vois, c'est des trucs. Il y a aussi, j'ai aussi utilisé l'astrologie pour Safia, qui est l'une des meilleures amies de Vic, qui est un personnage que j'affectionne particulièrement, qui est une vraie fonceuse tête baissée. Et du coup, c'est le petit bélier, tu vois. J'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit « Ah bah, c'est le petit bélier, je me reconnais trop dans Safia, c'est la petite fonceuse qui réfléchit pas, qui va. »
Bah, voilà, je te dirai ça parce que je suis bélier, donc quand je le lirai, je te ferai un retour, mais rien que tu... Quand t'as dit « ouais, c'est la fonceuse », j'ai dit « ok, les béliers, c'est bon ». C'est voilà, le cliché, et je sais qu'il y a des gens, ça les énerve, mais bon, même s'il y a des clichés, je suis désolée, mais à chaque fois que je suis pas en mode « je vais deviner ton signe quand je découvre quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un », mais... Quand ils me disent leur signe astrologique, je suis en mode « Ah, je le vois !»
Je suis pas étonnée, ça m'étonne pas du tout.
Ou alors, je vois par rapport à ton ascendant, je vois par rapport à ta lune, oui, il y a un truc.
Tu vois.
Il se passe quoi dans tes relations amoureuses ? Ah, t'es ça en Vénus ? Ah ouais, ça fait sens.
C'est exactement ça.
Donc du coup, voilà, c'est juste drôle, mais comme tu dis, c'est pas une science exacte, mais
non, bien
c'est
sûr.
Assez sympa de voir voilà, les parfois coïncidences ou les traits qui c'est peuvent ça, être communs d'une personne à une autre. Bah, écoute, pour terminer, justement, pour revenir un tout petit peu côté blog, tu parles, comme tu disais, de voilà, ton expérience en auto-édition, en auto-publication et que tu aimerais bien aider les autres parce que tu documentes ton aventure hein, finalement, donc ton évolution. Est-ce que tu as quelque chose... un truc que tu voudrais partager, que tu as vraiment appris cette année dans tout ton processus d'écriture et de publication. Enfin, cette année, du coup, 2023 plutôt.
2023. Alors, je ne vais pas partager un outil ou une technique que j'ai apprise, mais je vais partager un constat. C'est que je pense qu'on a de la chance, nous qui aimons écrire, de vivre à ce siècle, parce qu'en fait, aujourd'hui, publier un livre, ça peut se faire vraiment pour de vrai. En fait, on peut tout apprendre. Et même si, comme je répète, on fait des fois appel à des freelances, bien évidemment, pour la correction, la couverture, etc., ben, on peut quand même faire beaucoup de choses soi-même et on peut apprendre des choses dont on ne se pensait pas capable. Enfin, on ne pensait pas être capable de les faire. Et en fait, on peut le faire. Et Internet, tu vois, Internet a bien des travers. Mais pour moi, c'est avant tout une mine d'or où on peut tout apprendre. Apprendre à créer un site Internet, apprendre à créer une newsletter, apprendre à maqueter un livre. Enfin, tu peux tout apprendre sur Internet. Et donc, je pense qu'il faut s'enlever ce frein-là. C'est ce que moi, j'ai appris cette année. C'est qu'en fait, tu peux vraiment le faire si t'as envie. Il y a moyen de le faire aujourd'hui. Puis il y a 30 ans, tu ne le faisais pas de la même façon, ça c'est une certitude.
Ouais, ça c'est sûr. Je n'ose pas imaginer s'auto-publier il y a 30 ans.
Je ne sais même pas si c'était possible.
Alors, d'un point de vue ordinateur, j'en sais rien, mais sinon, ça devait être vraiment un investissement monstre.
Tu payais toi-même.
Faire imprimer. Et la maquette, s'il y a un couac, ce n'est pas comme aujourd'hui avec les plateformes. Ah mince, il y a un problème dans ma maquette, je le refais. Il y a 30 ans, tu avais une erreur sur ta maquette, que ce soit ton bon à tirer ou tes tirages, ça devait être une perte.
Donc voilà ce que j'ai appris.
T'as raison de le rappeler.
Tout apprendre.
Et bah écoute, comme on est l'épisode de janvier, c'est un peu, on va dire, de mise. Est-ce que tu as au moins une résolution en écriture pour cette année 2024?
Alors, j'aime pas le mot résolution, parce que résolution, ça fait un peu injonction, là. J'ai une intention, j'en ai même deux bonnes intentions. J'aimerais idéalement republier un roman d'ici l'été. Je sais pas si ça va être possible avec ma vie, mais c'est un projet en tout cas que j'ai. Et j'aimerais publier une romance de Noël pour tu vois, novembre-décembre 2024. Ce sont mes deux intentions en écriture, et donc reprendre un rythme, à savoir me lever encore plus tôt le matin, tu vois, pour pouvoir écrire avant d'aller travailler.
Bichette.
Avant d'emmener ma fille chez sa nourrice, avant de... Tu vois quoi.
Avec tes journées qui font déjà 48 heures en une, quoi.
Voilà, le sommeil, c'est surcoté.
J'ai oublié, je sais pas.
Pas ce que
c'est. Ça, c'est un truc qui a été laissé en 2020, je crois que ça n'existe plus. Bah écoute, voilà, en tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite que tes intentions se réalisent cette année. Et avant de conclure, je voulais te demander, voilà, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un petit truc que tu voudrais rajouter? C'est ton moment, je te laisse le micro.
C'est mon moment. Donc mon roman, il s'appelle Nos amours envolés. Tu l'as dit, il est disponible sur Amazon. Et je voudrais dire, il n'y a pas de faute dans le titre, parce que c'est Nos amours envolés et ES. Et donc, les gens qui pensent qu'il y a une faute ne vont pas l'acheter en se disant « mais cette fille-là ne sait pas écrire ». Donc, nos amours, au pluriel, ça prend le genre du féminin. Donc, il n'y a pas de faute d'accord dans mon titre. Non, mais je le redis, voilà, comme ça me fait sourire parce que j'ai eu la réflexion plusieurs fois. Et voilà, donc, nos amours, au pluriel, c'est féminin. C'était ma conclusion.
J'aime bien. Bah, merci beaucoup, Marie, en tout cas, pour cet épisode. Merci de réouvrir le bal pour le podcast cette année.
C'est trop cool, ça m'a fait hyper plaisir de passer du côté du micro. Là, moi qui t'écoute depuis très longtemps, c'était un vrai plaisir.
Plaisir partagé. Encore merci à Marie pour cette interview et ce moment s'est passé super vite. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis effectivement en train de lire actuellement Nos amours envolés. Et je dois avouer que oui, je crois que je suis un bélier cliché parce que je me retrouve énormément dans le personnage de Safia. Mais bon, fallait s'y attendre, je le savais déjà. Vous pouvez retrouver Marie Cetereza sur les réseaux sociaux, ainsi que ses livres et donc son roman Nos amours envolés. Je vous mets tous les détails dans la description. Et nous, on se rejoint, ou du moins on se retrouve à la fin du mois pour un nouvel épisode de Tête à Tête, donc mes épisodes en solo. Et sinon, le mois prochain, en février, pour une nouvelle interview. Prenez soin de vous. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!